Merci d'être avec nous sur Radio France Internationale. Il est 17h en temps universel, 18h à Valence.
Victor Moria.
Valence et ses alentours, sous les eaux, la boue et les décombres, 211 morts, dernier bilan des inondations qui ont frappé la région il y a 4 jours. Plus de 17 000 militaires, policiers et gendarmes sont désormais mobilisés. Nous serons en direct dans un instant depuis Chiva, à quelques kilomètres à l'ouest de Valence, dans une des villes les plus touchées. Cali, c'est fini. La COP 16 sur la biodiversité s'est achevée en Colombie. Dans l'incompréhension générale, les ultimes débats tant attendus sur la création d'un fonds pour la biodiversité n'ont pas eu lieu, faute de participants. Et puis, en Corée du Sud, l'opposition manifeste suite au scandale qui touche le président Sukyol, accusé d'ingérence dans les travaux de l'Assemblée. Enfin, nous serons également en direct depuis Bercy pour la deuxième demi-finale. C'est du tennis. Le français Hugo Humbert affronte le russe Karen Khachanov. 7500 soldats, 10 000 policiers et gendarmes, l'Espagne mobilise de plus en plus d'hommes et de femmes pour assister les victimes des inondations. C'est le plus gros déploiement de forces armées jamais effectué en Espagne en temps de paix, explique le chef du gouvernement Pedro Sanchez. Au moins 211 personnes sont mortes dans la région de Valence, un bilan qui devrait encore augmenter, estiment les autorités. Dans certaines villes, la situation est chaotique, c'est le cas à Chiva, petite ville à l'ouest de Valence. Bonsoir Élise Gajanzel.
Bonsoir.
Correspondante de RFI en Espagne, vous êtes actuellement à Chiva. Il est tombé mardi l'équivalent d'un an de précipitations et les dégâts sont considérables.
Eh bien oui, 4 jours après cette tragédie, le centre de Chiva ressemble à une ville en ruine. Des rues sont éventrées, des maisons sont directement tombées dans le ravin du cours d'eau qui traversait leur quartier. Nous avons croisé ce quinquagénaire, Juan, qui malgré le risque d'effondrement et alors que le mur de sa maison était déjà tombé dans le précipice, rentrait chez lui ce matin pour récupérer quelques affaires. Puis d'un coup, cet après-midi, l'agitation, les pompiers et ambulances sont arrivées en urgence. 22 personnes, des volontaires qui aidaient à vider un parking souterrain, ont été sorties inanimées. Leur pompe pour vider l'eau du garage les a intoxiquées au monoxyde de carbone. 3 sont dans un état grave. Un voisin, Francisco Javier, qui observait la scène dans l'angoisse alors que son cousin était allongé sous une couverture de survie, m'a expliqué en larmes qu'il venait de finir de nettoyer sa maison et qu'il voulait simplement aider les autres, comme si le sort s'acharnait sur Chiva.
Merci Élise Gajanzel, en direct depuis Chiva, en Espagne, à quelques kilomètres de Valence. Le poste frontière d'Al-Qajouzieh, séparant le Liban et la Syrie, à nouveau bombardé ce soir par l'armée israélienne. C'est la deuxième fois en un peu plus d'une semaine. Ce poste frontière est crucial pour le passage des réfugiés libanais. Des structures humanitaires ont été touchées, assure le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. De son côté, le Hezbollah a revendiqué des tirs de roquettes contre Israël, près de Haïfa, au nord, et contre une base du renseignement militaire, près de Tel Aviv, dans le centre de l'État hébreu. Dans la bande de Gaza, la situation est apocalyptique. Selon l'ONU, plusieurs raids israéliens ont fait au moins 55 morts ces dernières 24 heures, détaille le ministère de la Santé du Hamas dans son bilan quotidien. Enfin, la chaîne de télévision publique égyptienne Al Qaïra News nous fait savoir que des pourparlers sont en cours entre le Fatah et le Hamas en vue de la gestion de la bande de Gaza après la guerre. Et ce alors que le Premier ministre israélien assure régulièrement que les combats ne prendront fin qu'après l'élimination du Hamas. En Ukraine, la Russie continue de grignoter du terrain. Moscou revendique la prise de 2 nouveaux villages dans l'est, dans la région de Donetsk. Par ailleurs, les alertes ont de nouveau retenti cet après-midi à Kiev, la capitale déjà visée la nuit dernière par une vaste attaque de drones. Cela a duré plusieurs heures. La COP 16 aura accouché d'une souris alors que beaucoup de pays africains attendaient un tour de parole sur la création ou non d'un fonds dédié à la biodiversité, fonds auquel les pays occidentaux sont opposés. La COP a dû être suspendue car il n'y avait plus assez de monde dans la salle. Écoutez le récit du professeur à Sciences Po et fondateur du think tank The Common Initiative, Alexander Rankovic. Il était présent au moment de la suspension.
Après une nuit blanche passée sans interruption en négociation, au moment où le texte que tout le monde attendait, le plus difficile, qui portait sur la question des financements, était mis en discussion et où on commençait à avoir ce choc des titans attendu entre les pays en développement et les pays développés, eh bien, l'heure avançant et les avions décollant, la salle a commencé à se vider et le délégué du Panama a soulevé un point de procédure et a demandé de compter si on était assez dans la salle pour pouvoir effectivement continuer d'adopter des textes. Dans les procédures, il faut un quorum, donc il faut qu'il y ait 2/3 des délégations présentes pour qu'on puisse continuer. C'était pas le cas du tout, et donc interruption de la COP. Une image, c'est comme si en fait on avait dû s'arrêter à la 89e minute de la finale de la Coupe du Monde, que pour X raisons, il n'y avait plus d'électricité dans le stade, etc. On est obligé d'interrompre le match et de le reprogrammer pour les quelques minutes restantes, quelques jours plus tard. Bah là, c'est ce qui va se passer à l'échelle plutôt de quelques mois, et on verra bien comment les équipes vont se préparer pour conclure la finale.
Alexander Rankovic, des propos recueillis par Lucille Gimbert, notre envoyée spéciale à Cali. La Corée du Sud et les soupçons d'ingérence pèsent sur le président Yoon Suk-yeol. Des enregistrements d'appels téléphoniques ont fuité jeudi dernier. Dans ces audios datant de 2022, on entend le président se vanter d'avoir demandé la nomination à l'Assemblée nationale d'une candidate en particulier. Ce samedi, le principal parti d'opposition, le Parti démocrate, a invité la population à se mobiliser massivement pour exiger la destitution du président. Correspondance dans les rues de Séoul est signée Camille Ruiz.
Dans une marée de pancartes blanches et bleues, couleur du Parti démocrate, les manifestants se pressent les uns contre les autres. Choi Ji-hyun a 47 ans et ne cache pas sa mine dégoûtée en abordant le scandale des enregistrements qui touchent le président.
C'est tellement honteux, c'est tellement embarrassant. Nous sommes ici pour faire entendre la voix du peuple, afin d'avertir le gouvernement que l'on ne continuera pas à supporter ce genre de choses.
Au centre du scandale, l'ancienne députée Kim Yong-sun, choisie par le parti présidentiel pour le représenter lors d'une élection partielle qui s'est déroulée en juin 2022. Car dans un appel téléphonique de mai 2022, mais qui n'a été rendu public que ce jeudi, on entend le président Yoon souffler le nom de cette personne pour la remercier, explique-t-il, de son investissement dans sa propre campagne. Le lendemain de cet appel, Kim Yong-sun est désignée candidate du parti. L'opposition y voit la preuve irréfutable que le président s'est immiscé dans ce choix. Nam Ge-sok est venu manifester avec sa fille pour exiger la destitution du président.
Au nom de la fierté de notre pays, nous ne pouvons pas pardonner cela. Yoon Suk-yeol ne peut plus représenter la Corée.
Cette affaire n'est pas sans rappeler celle qui a mené l'ancienne présidente Park Geun-hye en prison pour ingérence. Ironie du sort, c'est l'actuel président Yoon Suk-yeol, à l'époque procureur, qui avait été à l'origine de son inculpation il y a 7 ans. Camille Ruiz, Séoul, RFI.
Dernier week-end de campagne aux États-Unis, Kamala Harris et Donald Trump sillonnent le pays, notamment les swing states, les états clés, pour tenter de convaincre les derniers indécis. Par ailleurs, des manifestations de femmes sont organisées aujourd'hui dans plusieurs villes américaines, alors que la défense du droit à l'avortement a été au cœur de la campagne démocrate. On termine ce journal avec du sport. Qui affrontera le numéro 3 mondial Alexander Zverev en finale du Master 1000 de Paris-Bercy? C'est du tennis. La seconde demi-finale se tient en ce moment entre le français Hugo Humbert et le russe Karen Khachanov. Bonsoir Eric Mamrut.
Bonsoir Victor.
En direct avec nous depuis le Palais Omnisport de Paris-Bercy. Eric, le français a perdu le premier set. Le russe l'a donc emporté 7-6 au tie-break.
C'est ça, l'issue d'un sacré bras de fer d'une heure et quart, où les deux hommes ont eu leur chance, mais ne l'ont pas saisi quand il le fallait. Hugo Humbert a perdu à 2 reprises son service durant cette manche pour reprendre dans la foulée l'engagement de son adversaire. Ça s'est conclu donc au jeu décisif où là le Français a mené 5-2 avec 2 services à suivre, mais il a cafouillé son tennis une nouvelle fois. Il semble beaucoup moins saignant véritablement aujourd'hui. Le feu follet français, tombeur d'Alcaraz notamment cette semaine, il semble payer ses efforts de la semaine, et donc il a commis quelques fautes pendant que Karen Khachanov, le canonnier russe, assénait des gifles en coup droit. Résultat 8-6 pour le russe qui passe en tête, donc un jeu partout dans le deuxième set. Voilà qui nous remémore leur seul et unique affrontement hein, entre Khachanov et Humbert. C'était aux Jeux Olympiques de Tokyo il y a 3 ans, au quart de finale. Victoire en 3 manches de Khachanov après avoir justement remporté le premier set au jeu décisif. Karen Khachanov qui a un record incroyable face aux joueurs français. Il a battu les 11 derniers joueurs tricolores qu'il a eu affrontés, dont cette semaine Giovanni Pecci Péricard. Donc gros défi offert à Hugo Humbert, qui est évidemment toujours soutenu par le public de Bercy.
Merci beaucoup Eric Mamrut. 18h09 ici à Paris, c'est la fin de cette édition. On suivra bien sûr le résultat avec vous Eric Mamrut tout au long de cette soirée. Merci d'avoir suivi, merci d'être à l'écoute de RFI.